Le journal Loïc Barrière. La France et ses partenaires européens actent leur retrait militaire du Mali. Entretien avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Toujours divisée, la Libye commémore le 11e anniversaire du début de la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi. C'était en 2011. Le secteur agricole au Maroc recevra une aide d'urgence pour faire face à la sécheresse. En Algérie, une ancienne ministre de l'Industrie condamnée à 5 ans de prison ferme pour corruption. En France, un rapport officiel indique qu'un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA ne réclament pas cette aide à laquelle ils ont pourtant droit. Les explications de la chercheure Nadia Ogbani, enseignante à l'Université de Toulouse. Enfin, une dictée géante ce dimanche en présence d'Elisabeth Moreno et de Jean-Louis Bianco. Une initiative de l'Association des élus de France. Nous écouterons son président, Driss Etazaoui. La France confirme qu'elle arrête ses opérations militaires contre les djihadistes au Mali. Décision prise avec ses partenaires européens et le Canada. Emmanuel Macron a précisé que les militaires européens seraient redéployés au Niger. Paris était intervenu en 2013 au Mali pour stopper la progression des groupes djihadistes qui menaçaient Bamako avant de mettre en place une vaste opération baptisée Barkhane. Sur ce retrait, entretien avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis.
L'annonce du président était attendue politiquement, mais elle confirme le fait que la lutte va se poursuivre, mais autrement, de manière beaucoup plus discrète, ou en tout cas moins grandiloquente, comme l'a pu être l'opération Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval en août 2014. Il est moins question de la massification de l'envoi de nos troupes et plus de la spécificité de petits contingents qui pourraient venir en complément ou lutter de concert avec les forces armées qui se sentent de plus en plus impliquées, car il s'agit aussi de partir du principe que la question du terrorisme ne concerne pas seulement le Mali, même si nous avions encore 2400 militaires français qui étaient déployés, mais concerne bien beaucoup plus largement les quatre autres pays qui appartiennent au G5 Sahel, et désormais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana. Il n'était évidemment pas anodin que lors de la conférence de presse à l'Élysée, était présent à la fois le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, le président Nana Akufo-Addo, le président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que Charles Michel, pour témoigner d'une certaine façon d'une forme de continuité, africanisation, européanisation. Ça, c'est le narratif officiel. Est-ce que cela va suffire à masquer l'échec politique qui est désormais consommé entre la CEDEAO, l'Union européenne, certains pays de l'Union européenne, en particulier la France et le Mali? Là, rien n'est moins sûr.
La France était perçue comme une force d'occupation par la population au Mali ces derniers temps?
Je crois que la France est perçue par une partie infinitésimale, mais néanmoins existante, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble des pays où les militaires français sont déployés. Que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, un petit peu moins au Tchad, il faut bien l'avouer, et évidemment au Mali. On a tous en tête, hélas, les manifestations d'hostilité contre les convois militaires de Barkhane qui avaient commencé à se redéployer depuis l'annonce française faite le 10 juin dernier, donc d'un redéploiement qui avait donc abouti à la fermeture de 3 des 6 bases que la force Barkhane occupait au Mali. Et malheureusement, on se souvient la tragédie qu'a constitué la perte de 3 manifestants nigériens qui s'étaient évidemment mobilisés contre les convois français traversant le Niger ou le Burkina. Donc c'est un sentiment qui n'est pas que malien, il est partagé par l'ensemble des pays où les forces françaises sont déployées. J'ose même dire que le sentiment anti-français n'est pas seulement consubstantiel de la présence militaire française, puisqu'un certain nombre de pays où il n'y a pas de présence militaire française, je pense notamment au Togo, sont de plus en plus rétifs à voir l'apport positif d'une coopération diplomatique ou d'une présence militaire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal par exemple, française, Elle est de plus en plus contestée, elle est de plus en plus concurrencée par d'autres, et elle est de plus en plus, je crois, instrumentalisée par des pays qui ne sont pas forcément à l'origine de l'hostilité des populations locales contre ce que représente la France et le symbole que représente l'envoi de forces militaires. Mais je crois qu'elle profite à un certain nombre de pays, et pas seulement qu'à la Russie, à la Turquie et bien évidemment à la Chine, qui peut-être profiteront de l'opportunité, c'est sans doute vrai au Mali, pour être beaucoup plus présente, non seulement économiquement, mais peut-être davantage militairement.
Quelles sont les conséquences de ce retrait pour les pays du nord du Mali et les pays d'Afrique du Nord ?
Alors c'est de nouveau une opportunité, et j'aurais dû rajouter que l'Algérie regardait avec beaucoup d'intérêt l'annonce française et sans doute se frotte les mains en pensant que, comme désormais la Constitution l'y autorise, l'envoi de troupes algériennes pourrait être une option. En tout cas, c'est ce que le président Tebboune avait évoqué lors d'une conférence de presse, en évoquant le fait que l'Algérie devait se tenir aux côtés des Maliens, plus précisément des Maliens du Nord, avec lesquels les relations sont anciennes et parfaitement documentées. Donc il est tout à fait possible que l'Algérie profite du vide laissé, en tout cas dans le septentrion malien, pour être plus actif, ou en tout cas pour participer au processus de stabilisation. Le président Emmanuel Macron l'a dit, la France quitte Barkhane, mais pour l'instant la MINUSMA, donc la force des Nations Unies, qui est présente depuis 2014, elle reste. Pour l'instant, les opérations européennes de formation militaire également, ça veut dire qu'il y a sans doute de la place pour de nouveaux acteurs. L'Algérie pourrait être un de ces acteurs. On évoque aussi beaucoup l'intérêt du Maroc pour une coopération militaire ou une coopération sécuritaire avec les autorités maliennes. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est rendu plusieurs fois au Mali, nonobstant la mise à l'écart des institutions régionales, notamment le CDAO. Donc il est tout à fait possible que le Maroc veuille peut-être, dans un premier temps, jouer les médiateurs, ou peut-être assumer son rôle désormais prégnant au sein de la commission paix et sécurité, alors que jusqu'à présent, la présence de Ramtane Lamamra à sa tête avait empêché que le Maroc joue ce rôle, en dehors en tout cas de son voisinage immédiat, nommément la Mauritanie. Donc il est tout à fait possible que le Maroc veuille rentrer dans la danse.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le Maroc lance un programme d'aide au secteur agricole, 1 milliard d'euros consacré à la lutte contre la sécheresse qui sévit actuellement dans le royaume. Le plan d'urgence prévoit notamment des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation. En Algérie, l'ancienne ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt, a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour corruption. Son mari a lui été condamné à 2 ans de prison ferme, tout comme son beau-frère, jugé lui par contumace. Le 11e anniversaire du début de la révolution en Libye, la révolte qui a renversé Muammar Kadhafi en 2011, un anniversaire au moment où la transition vers la démocratie connaît de nouvelles difficultés. Après avoir manqué l'échéance électorale cruciale de décembre, le pays se retrouve depuis le 10 février avec deux premiers ministres rivaux à Tripoli. L'Iran n'a plus que quelques jours pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire. Déclaration du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. De son côté, le négociateur iranien estime qu'un accord est plus proche que jamais. C'est dans ce contexte que l'ayatollah Ali Khamenei a qualifié d'absurde les accusations selon lesquelles l'Iran se prépare à produire une bombe atomique. En France, 34% des foyers éligibles au RSA n'en font pas la demande. C'est ce qu'indique un rapport officiel de la DREES. Comment expliquer ce non-recours aux droits par les personnes les plus pauvres? Ce sont plusieurs milliards d'euros qui ne seraient pas versés. On écoute les explications de Nadia Ogbani, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Toulouse.
Le rapport de l'adresse, il permet de proposer une nouvelle manière de mesurer le RSA de manière régulière, ce qui est particulièrement intéressant parce qu'on n'avait pas des chiffres de manière régulière et du coup la production de chiffres ne nous permettait pas vraiment de voir l'évolution du non-recours. Il met notamment en évidence qu'on a un taux de non-recours au RSA de 34% en moyenne par trimestre, ce qui est quand même assez alertant et qui reste un taux de non-recours assez élevé, notamment pour un minima social. Et en fait, bah, les chiffres qui avaient été produits en 2011 étaient de 36%, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment eu d'évolution et de diminution du non-recours au RSA.
Qu'est-ce qui explique qu'un tiers des foyers éligibles ne réclament pas le RSA ?
Alors, bah, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, il y a une méconnaissance du RSA et de ses conditions d'éligibilité. Par exemple, on peut percevoir le RSA quand on est en couple et qu'il y a une des deux personnes qui travaille ou que les deux personnes travaillent mais pas à temps complet. Et on voit qu'il y a particulièrement de non-recours chez les personnes en couple, sans enfants notamment. Donc, qu'est-ce qui explique notamment le fait que les personnes ne soient pas au courant, ne s'identifient pas forcément comme public cible, et que finalement, il y a assez peu d'informations pour permettre aux personnes d'être mises au courant de leurs droits au RSA. C'est une problématique qui vient à la fois des institutions, qui seraient potentiellement en mesure d'informer les publics qui pourraient bénéficier du RSA, parce que là, on voit bien à travers cette étude qu'il est possible de les identifier, et aussi une difficulté de compréhension des prestations. Et puis après, il y a toutes les problématiques qui sont liées aux démarches administratives, qui peuvent également poser des soucis. Il y a un grand nombre de personnes, là, moi j'avais fait une enquête en 2010 puis en 2014 sur le non-recours au RSA, où il y avait des personnes qui souhaitaient percevoir une prestation, savaient qu'ils pouvaient en bénéficier, mais où la réalisation de démarches administratives était compliquée et où les personnes avaient besoin d'un accompagnement. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, est de plus en plus compliqué parce que on enjoint les publics à faire leurs démarches en ligne, et qu'on a encore un très fort taux de fracture numérique avec un certain nombre de personnes qui ne savent pas réaliser des démarches en ligne. Et donc, ça constitue une problématique supplémentaire, notamment parce que la dématérialisation a conduit à la fermeture d'un certain nombre d'accueils où on avait la possibilité d'être reçu par une personne compétente en matière de gestion des droits, et que là, ça devient de plus en plus difficile d'être accompagné.
Pour que 100% des bénéficiaires aient accès à leurs droits, faudrait-il que le RSA soit versé automatiquement ?
Alors déjà, il y a des problématiques politiques avec le fait que le RSA soit versé automatiquement. On voit bien que là, on a des capacités d'identifier les publics cibles. Le rapport de l'ADRES met bien en évidence qu'il y a des limites dans ces modalités de qualification, mais potentiellement, s'il y avait une automatisation des droits, ça permettrait effectivement de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent bénéficier du RSA. Donc, en ce sens, ça permettrait effectivement de lutter contre la pauvreté, puisque on a une aggravation des situations de pauvreté liées au non-recours au RSA. Mais il faudrait pouvoir automatiser ces 100% de bénéficiaires et, en l'occurrence, on a encore des difficultés à les identifier entièrement. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait constituer une avancée, mais encore faudrait-il que les pouvoirs publics souhaitent lutter contre la pauvreté et permettre aux personnes d'accéder effectivement à leurs droits. Mais c'est pas pour autant sûr que ça permettrait de toucher tous les bénéficiaires potentiels.
Nadia Ogbani, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Toulouse. Le décès de l'artiste et sculptrice jordanienne Mona Saoudi, elle était âgée de 76 ans, le président de l'Institut du monde arabe Jack Lang lui a rendu hommage en rappelant que ses œuvres sont présentes dans les musées du monde entier, notamment celui de Lima. L'Association des élus de France organise une dictée géante ce dimanche 20 février en présence de la ministre Elisabeth Moreno et de Jean-Louis Bianco, ancien président de l'Observatoire de la laïcité. L'idée est de rassembler autour de la langue française, loin des débats identitaires. On écoute le président de l'Association des élus de France, Driss Etazaoui.
Vous connaissez la vocation de l'Association des élus de France qui œuvre à réconcilier nos concitoyens entre eux, mais aussi à les réconcilier autour de la chose publique et autour du politique. Aujourd'hui, on constate le pays traversé par un certain nombre de fractures économiques, sociales, urbaines, climatiques et même identitaires, hein, le front de débat de l'élection présidentielle, et il est plus que temps d'essayer de rassembler nos concitoyens. Et quoi de mieux que la langue française, qui est un symbole d'unité, un facteur de cohésion, eh bien, pour rassembler les élus locaux, mais pas seulement les élus locaux, les parlementaires également, eh bien, autour d'un symbole républicain fort, la langue française et ses nuances, la langue française et ses complexités, la langue française et ce qui fait, enfin, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et autour de cela, indépendamment de nos étiquettes politiques, nos appartenances partisanes, eh bien, l'intérêt, c'est de retrouver autour d'un symbole pour lequel, eh bien, nous sommes susceptibles de faire corps. Et donc, c'est la deuxième édition de la Dictée Géante. La première édition a eu lieu l'année dernière, quasiment jour pour jour. Nous avons mobilisé dans les quatre coins du pays, quatre coins de la France, approximativement 400 élus, des élus de la ruralité, des élus de métropole, des élus de quartier populaire, et bien toujours autour de saint symbole républicain qui est la langue française, la langue de Molière, et on s'est tous essayé à cet exercice de la dictée géante en visio. On a une partie en présentiel et je remercie, vous m'en donnez l'occasion, le maire du 19e arrondissement de bien vouloir nous accueillir dans le salon d'honneur de la mairie du 19e. Le siège, j'ai envie de dire le QG de la dictée géante sera installé dans la mairie du 19e arrondissement, mais la visio, enfin la dictée est en visio. L'idée c'est d'avoir un maximum d'élus et de pouvoir toucher les élus de métropole comme les élus ultramarins. Donc un lien sera envoyé à l'ensemble des élus qui se seront inscrits 48 heures avant le jour J, c'est-à-dire le 20 février. Et nous serons donc à la mairie du 19e en présence de Madame la Ministre, en charge de l'égalité des chances et de l'égalité entre les hommes et les femmes, Madame Elisabeth Moreno, qui a eu la gentillesse de bien vouloir accepter d'être présente pour ce grand moment républicain. Mais également, et je salue la présence de notre deuxième parrain, qui est Jean-Louis Bianco. Tout le monde connaît Jean-Louis Bianco, il a été ministre, mais il a été aussi et surtout président de l'Observatoire de la laïcité. Je trouvais que le symbole était aussi assez important que d'inviter Jean-Louis Bianco bien pour faire la dictée, puisque c'est lui qui aura l'honneur et le plaisir non seulement de dire le texte, mais également de choisir le thème et le sujet du texte. Force est de constater que le climat n'est pas un climat à l'apaisement. Aujourd'hui, nous avons de fortes tensions identitaires et cette initiative autour de la langue française et de la dictée vise à montrer que nous sommes capables, eh bien, de surmonter des a priori, des fantasmes, des raccourcis, eh bien, indépendamment de nos étiquettes politiques, qu'on soit les républicains, qu'on soit au MoDem, qu'on soit socialiste, eh bien, on peut toujours se retrouver un temps, pour un temps de cohésion et de rassemblement national autour de ce sujet.
Le président de l'Association des élus de France, Driss Etazaoui. À 19h et 23h, ce jeudi, et si on en parlait, le thème de l'émission cette semaine, que faut-il espérer des élections législatives au Liban le 15 mai prochain ? Alexis Bachelet recevra Qatar Abou Diab, politologue, professeur et expert du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et Maya Kadra, enseignante et journaliste spécialiste du Liban. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.